On va pouvoir commencer ? Allons-y !
Les scouts de France.
Nous sommes venus à l'intérieur du scoutisme parce que nous y avions trouvé une grande famille. Et c'est cet esprit que, aujourd'hui, nous partageons avec beaucoup de jeunes de banlieue qui découvrent quelque chose qui leur fait chaud au cœur. Le scoutisme, c'est pouvoir apprendre à devenir autonome, à devenir responsable, à construire l'homme.
On vient d'entendre un scout musulman. Oui, dans la Fédération du scoutisme français, il est des scouts musulmans, des éclaireurs israélites, d'autres unionistes d'origine protestante, d'autres encore laïcs. Le mouvement qui demeure le plus important est catholique, scout et guide de France, mais il lui arrive d'accueillir des membres, voire des chefs musulmans. L'ensemble de ces organisations s'est vivement élevé contre une proposition de loi dite Babylou, portée notamment par les radicaux de gauche. On se souvient de l'affaire qu'avait provoqué la présence d'une animatrice voilée dans la crèche de ce nom. L'intention de la proposition de loi, dans sa première mouture, était clairement de réduire le plus possible l'exposition des jeunes personnes à la religion. Ni signes religieux, ni propos religieux de la part des adultes. Jusqu'à 3 ans, 6 ans, 18, quel lieu d'accueil était-il visé ? Scolaire, associatif ? Les tenants d'une laïcité dure se faisaient rassurants. Les lieux à caractère propre subsisteraient. Simplement, il ne fallait plus qu'ils comptent sur des subventions publiques. De la proposition de loi d'origine, il ne reste quasi rien dans le texte maigrelet qui vient en discussion à l'Assemblée nationale. Et les scouts sont pour beaucoup dans les coups de rabot qui lui ont été appliqués jusqu'à le réduire à un article unique sans portée. Les scouts ont fait valoir les menaces qui leur aient fait planer sur leur mouvement, mais aussi sur la concorde nationale. Le mouvement scout a formé au bas mot des centaines et des centaines de milliers de Français quand ils s'engagent pour défendre une laïcité sereine. Cela pèse encore d'un certain poids.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Christian Guérin, qui naguère, je veux dire à la fin de l'autre millénaire, publia un livre, L'Utopie Scout de France, chez Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Scout toujours. Maintenant, vous êtes professeur de classe préparatoire et vous exact. Appliquez à Metz, au lycée Georges de la Tour, un projet qui réunit des jeunes de différentes origines, un peu comme le scoutisme.
C'est notre objectif, oui. Mais la référence au scoutisme n'y est pas.
L'idée, c'est que des jeunes venus d'un peu tous les coins du nord de la Lorraine et de tous les milieux puissent accéder à l'école normale supérieure ou aux grandes écoles. Absolument. À l'issue des classes préparatoires.
On répond à la lettre de la mission qui nous est confiée.
Scout toujours, non, je ne vais pas insister sur votre passé, historien toujours. Quand vous faisiez votre thèse sur les scouts, vous avez été très reconnaissant à quelques-uns d'entre eux, quelques-uns parce qu'ils sont minoritaires dans un mouvement sans cesse renouvelé, de s'intéresser aux archives du mouvement.
Absolument, oui. En particulier sous le commissariat d'Acosta, Christian Huris s'est dévoué vraiment pour faire un boulot assez remarquable, de sérieux, de rigueur, lutter contre les collectionneurs qui mettent la main assez facilement sur des archives, voilà.
Alors, vous l'avez parlé, nous n'allons parler que des scouts de France, constitués officiellement en 1920. Fondé à l'origine par un officier colonial anglais, Baden-Powell, imaginé au départ autour de 1900 comme un mouvement plutôt spiritualiste, le scoutisme ne va pas devenir l'apanage du catholicisme, mais les catholiques anglais vont s'y retrouver très vite. Et ce qui n'était pas prévisible, le catholicisme français intransigeant du début du XXe.
Le catholicisme français, non sans mal. Hein. Vous avez une partie rigoriste qui est radicalement contre et qui monte une cabale. C'est un catholicisme social qui est dans une doctrine à la fois ouverte et conservatrice. C'est un paradoxe. Mais ils sont pas, ils sont tournés vers la modernité d'une certaine façon. et en même temps très attaché à l'inscription de la tradition dans cette modernité.
Il y a presque une théologie du scoutisme. Il y a quelques généraux, Janvier et Culotte de Peau, hein, quand vous en faites la description, on les sent comme ça, qui sont à la tête officiellement du mouvement, mais ce sont des aumôniers qui en font la théorie, et notamment un père, le père Sevin, Dieu aidant, ouais. Nous allons faire ouais. L'homme complet.
Exact.
Ça veut dire quoi ?
Il essaye d'inscrire son projet dans une représentation, dans une vision du monde globale. Et il pense, comme beaucoup d'ailleurs, que la dimension religieuse fait partie de la dimension de l'être humain. Donc, il faut à la fois former le caractère, comme on dit à l'époque, le comportement, hein, on pourrait dire aussi, et la dimension spirituelle.
Par exemple, vous étiez assis un peu haut, là, devant votre micro, et vous m'avez dit, non, il faut que je sois plus bas, je ne peux pas me changer, avez-vous ajouté.
Oui, c'est ça, c'est le sens de la modestie qui était enraciné, que voulez-vous.
Et vous allez donner à cette émission un caractère ludique, parce que c'est très important, c'est fondamental, le jeu.
C'est fondamental. Surtout avec Pierre Delsuc et les années 30, c'est un avocat, pourtant, hein, qui n'a aucune compétence particulière, et qui va comprendre, je crois avec une finesse assez extraordinaire, le rôle du jeu inscrit dans ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire une théologie politique, un petit peu, enfin, bon, le mot est un peu grand, mais il y a de ça.
Alors, pas de trop grands mots, parce qu'il faut faire passer un idéal à la jeunesse. Évoquons plutôt, si vous le voulez bien, plutôt que de lourds traités, une série qui a ouvert la collection Signes de piste. C'est la série du prince Éric. Il est avec sa patrouille au camp. Alors, les patrouilles portent des noms d'animaux, parce qu'il y a un imaginaire livre de la jungle.
Qui subsiste.
Indianisme et peau-rougisme. Dans ce témoignage de Serge Dalin, ce qui va faire plusieurs volumes autour des aventures du prince Éric, qui vient, blondeur parfaite et peau diaphane du Grand Nord.
Christian, je te présente Éric Janssen, le scout d'Auteuil qui vit au camp avec nous. Éric, voici Christian Dancourt, de la patrouille des loups.
Bonjour.
Bonjour, Éric. Qu'est-ce que c'est que tu chantais ?
Une chanson norvégienne.
Norvégienne ? Comment ça ?
Ma mère n'était pas française, alors voilà.
Ah bon ? Alors c'est pour ça ?
À quoi donc ?
Ce bracelet bizarre que tu portes, là. Hey, on dirait du vermeil.
Ben, oui, c'est du vermeil.
Et qu'est-ce qu'il y a dessus ? BK11836, qu'est-ce que ça veut dire ?
Allez, les gars, faut nous coucher. Demain, vous tiendrez plus de vous.
Oh, bon, on va avoir 2 mois pour se reposer.
Allons, Éric doit tomber de sommeil. Bonsoir, les gars.
Bonsoir, chef.
Bonsoir, chef.
Quelle belle nuit.
Ah, oui, on en oublierait presque le château.
Tu sais que tu es vraiment chic pour moi, Christian.
Oh, Dieu.
Christian, je voudrais...
Mais quoi ?
Je voudrais te dire quelque chose.
Oh non, Éric, non, pas ce soir.
Hein. Oh, si, j'y tiens beaucoup. Il est temps que je te raconte l'histoire du bracelet, Christian.
Bracelet de vermeil, pas d'or. Toujours modeste, n'est-ce pas, Christian oui. Guérin ? Il y a un secret du prince Éric qui va mener loin Christian et sa patrouille.
Ah, le passé, la malédiction d'un passé révolu.
Le prince Éric, il est prince d'une principauté.
Une principauté nordique, norvégienne. oui, tout à fait. Sacralité, simplicité, élégance. Enfin, passé, donc, évidemment, chevaleresque qui affleure, là.
Parce que ses copains qui vont aller le suivre dans sa principauté pour le sauver des pervers et des méchants, ils font preuve de valeur chevaleresque.
Ah ben, tout à fait. C'est solidarité très très forte, courage, enfin, tout y est.
Et sur la couverture de votre livre, L'Utopie Scout de France, Utopie, vous avez fait figurer un dessin de cette époque où on voyait un scout en grand uniforme avec son chapeau, son bâton. Mais par-dessus, il y a un chevalier, un cotte de maille qui lui tient les épaules de ses deux mains.
C'est le surmoi. C'est vraiment le poids de cette image que l'on veut vraiment inscrire dans le présent. Et c'est toute l'affaire des années 30 et 40.
La promesse, par exemple, qui consiste librement à adhérer à une loi, elle est précédée d'une veillée qui ressemble à la veillée du chevalier.
Absolument, tout à fait. C'est inscrire dans le présent, comme je vous le disais tout à l'heure, inscrire dans le présent cette référence, avec tout ce que ça peut avoir d'émotionnel, de sensible pour ces jeunes qui viennent là librement, il faut le rappeler, hein, c'est une adhésion tout à fait personnelle, et ça marque. Surtout quand on est originaire de la banlieue ou de la ville, ce qui est souvent le cas.
Les classes populaires ont été concernées d'emblée par le scoutisme.
Oui, alors certaines classes populaires. Rarement le prolétariat, quoique, on pourrait l'évoquer, mais c'est surtout le monde du petit commerce, des professions intermédiaires, dans les années 20 et 30, la domesticité.
Parce que les enfants des ouvriers d'industrie, ils allaient par exemple chez les Faucons Rouges, dont on disait, ouais, garçons et filles de la classe ouvrière, nous serons élevés ensemble.
Encore que l'impact des Faucons Rouges a été très limité, mais la dans ce milieu-là, on travaille très jeune. Donc déjà, ça pose un problème. Et puis, l'encadrement idéologique est très solide.
Revenons à l'encadrement idéologique des scouts de France. On a parlé du père Sevin. Il y en a un autre qui s'appelle le père Doncoeur, qui s'occupe surtout des aînés du groupe qu'on dit de la route. Alors lui, il porte à incandescence le chevaleresque.
Ah oui, tout à fait.
Il va même jusqu'à l'idée de reconquête pour l'avenir.
Ça devient un véritable mysticisme. Et ce qui fait, c'est ce qui fait son charisme. Reconnu par tous à l'époque. Même ceux qui sont assez réservé à son égard.
Nous ne vieillirons pas, écrivait-il, avant d'avoir reconquis la France pour la rendre au Christ.
Absolument, c'est le grand projet de l'époque. C'est la croisade intérieure, refaire chrétienne la France.
Oui, mais alors c'est embêtant au moment du Front Populaire, dont vous dites que le scoutisme l'accueille modérément. Mais il a été très marqué, le scoutisme, par le mouvement du 6 février 1934. On va entendre un chant de cette année-là, si vous le voulez bien, brièvement. Puis, les chefs scouts seront souvent subjugués par le vieux chef qu'on entendra, si vous le voulez bien, encore plus brièvement.
Notre chef, que pleurez-vous ?
Je pleure ma belle France infidèle qui ne salue plus sur les routes belles. La croix que j'ai tant désirée pour elle et pour vous.
Scouts de France, mes jeunes amis, scouts chrétiens de la métropole et de l'Empire, scouts musulmans de l'Afrique, que cet hommage leur soit rendu ainsi qu'aux chefs qui les animent.
Notre chef, notre chef.
Le message du maréchal était envoyé au grand rassemblement scout. Il y avait déjà des scouts musulmans du Puy-en-Velay de l'été 1942.
Grande communion collective. Ce qu'il faut dire, c'est que le premier Vichy, le Vichy des premiers mois jusqu'à l'entrevue de Montoire, en tout cas en ce qui concerne la politique de la jeunesse, est peuplé de gens qui viennent des scouts de France.
À commencer par le futur maire de la Bourboule, grand chef scout et grand orateur, et qui a été le commissaire à la jeunesse de cette époque, Georges Lamiran. Le scoutisme va sortir troublé de ces années, plus peut-être que les mouvements d'action catholique, la JOC, l'action catholique de la jeunesse, troublé mais pas amenuisé.
Non, parce que, bon, troublé à cause de l'image, des représentations, etc., mais en même temps peu contesté parce qu'il y a eu à titre individuel beaucoup d'engagement dans la résistance. Et le mouvement s'est assez bien conduit. Il y a eu une solidarité réelle, notamment, pour autant qu'on puisse le savoir, puisque les archives sont difficiles d'accès, envers les scouts israélites. Donc le mouvement s'est bien comporté. Et de toute façon, il y a une hostilité foncière à l'égard de la collaboration.
On sait combien il y a de scouts à la Libération ?
On dépasse les 100 000. On doit tourner autour de 125 à 130 000, je pense.
On n'est pas si loin aujourd'hui, on est à 70 000, en ajoutant les guides.
Ils sont bien défendus.
Mais ils se défendent dans toutes les circonstances, les scouts, et ils sont toujours gays. Et ils doivent chanter. Le chant, vous pratiquiez beaucoup, vous, Christian Guérin ?
Question de voix, il valait mieux pas.
Jean Weber, qui est professeur à Juilly, a confectionné des disques, notamment l'un chez Marianne Mélodie, qui donne le meilleur des chants scouts. On est encore là dans une époque assez ancienne, ça va faire la transition après, avant l'après-libération.
Les scouts sont appelés là. 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 Les scouts sont appelés là.
Les scouts sont toujours gays.
Les scouts sont toujours gays.
Bien plus macaque le pinceau et que tous les
papiers gays.
Les scouts sont toujours gays.
Les scouts sont toujours gays.
Les scouts sont toujours gays.
Les scouts sont plein d'esprit.
La meilleure voix qu'on ait, la chanson que je vous dis. Les scouts sont plein d'esprit.
Les scouts sont plein d'esprit. Les scouts sont plein d'esprit.
Oh, oh, oh. Les scouts font jamais trop.
Les scouts font jamais trop.
Bien que les gens qui reviennent leur but de prendre façon vite.
Faut bien qu'on oh, 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 oh.
Les scouts font jamais trop.
Les scouts font jamais trop. Les scouts font jamais trop.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les scouts en France avec Christian Guérin qui a publié un livre important, l'utopie scout de France. Je n'ai jamais prétendu vous faire chanter une chanson de cette époque-là.
Heureusement.
Parce que vous, c'est un peu plus tard. On va parler de l'après-libération des années 50, surtout des années 60, de l'époque qui nous mène à aujourd'hui. De votre temps, c'était, ça remonte quand même à la plus haute antiquité, c'est
absolument
la même époque que la mienne, Graham Allwright et Hugo Frey.
Tout à fait. Ouais. Oui, ça avait vraiment du succès à ce moment-là, hein, je vous assure.
Mais les Beatles avaient commencé à être connus néanmoins.
Oui, mais je crains que beaucoup d'entre nous soient passés à côté, sur le moment en tout cas.
Parce que vous viviez, expliquez-vous, dans une atmosphère simple et sympathique.
Oui, alors je tiens tout de suite à dire que par rapport à d'autres, je ne suis pas un scout franchement très, comment dirais-je, représentatif. Hein. J'ai vraiment effleuré le mouvement et je ne renie rien, mais je ne m'en suis jamais considéré comme porte-parole ou militant. Cela étant, bon, c'était un tout petit poste. Hein. Dans les années 70, Vitry-François, donc la Champagne pouilleuse, vous voyez.
Et vous étiez quoi, la grand chef indien?
Non, pas du tout, enfin... c'était l'époque des pionniers. Ah. Donc après la réforme. Et donc on construisait des crucifix en bois que l'on essayait de vendre pour soutenir des actions tiers-mondistes à ce moment-là. Mais il y avait toujours le côté forêt quand le grand jeu était passé de mode, mais il y avait cette inscription dans la nature qui était encore là très forte.
Je ne sais pas quelle trace religieuse vous est restée. En revanche, le goût de la marche.
Oui.
Le fait de ne pas être gros, vous avez entendu la chanson.
C'est une lutte de tous les instants.
Et le goût de la distance critique qu'on peut apprendre dans le scoutisme. Alors, puisqu'on parle de feux de bois, de camps et de décors forestiers, voici des sons qui, pour une fois, viennent du côté des éclaireurs. Je ne sais pas si ce sont les éclaireurs laïcs, unionistes, qui sait, israélites.
En très peu de temps, la hutte fut construite. Sur un bâti de perches, des branchages tressés formaient le toit et les murs. J'étais stupéfait par la vitesse et l'habileté des éclaireurs. Les gazelles étaient là comme convenu. François me présenta comme le guide des renards. Les filles me regardaient avec curiosité, mais tout allait bien.
Scout, toujours.
Oui. Oh, mince, par exemple.
Repos. Trompez.
Monsieur
Carossade. Cette fois-ci, tu es devenu un homme.
Toi, tu n'as pas changé.
Un peu de ventre en plus.
On va te le raboter. Cette année, on a des projets formidables.
On va construire un pont.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un corps d'éclaireuse à 300 mètres.
Oh, ça, c'est mauvais.
Non, elle campe exactement comme nous.
Oui, il y a de la fille, il y a de l'histoire et de l'amour.
Oh, c'est pas notre genre.
Chef, il faut un homme pour la corvée de pommes de terre.
Eh ben, moi, des patates, ça me rappellera le régiment.
Si tu veux bien.
Pas comme ça, il me faut un ordre.
Gabriel Adernest. Désigné pour la corvée de patates.
Oh, ça me rajeunit de 40 ans.
Qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est Michel Simon dans le film de Julien Duvivier, La fin du jour, okay. Vieux comédien en maison de retraite, et puis un de ses neveux amène tous les étés un camp.
Probablement des éclaireurs laïcs, je pense. Je crois me souvenir qu'il n'y a pas d'insigne très, très marqué. Et probablement que Duvivier a dû choisir cette solution-là pour éviter...
La neutralité.
Voilà, tout à fait.
Alors, parmi les grands enjeux de l'époque contemporaine, la mixité. Question déjà posée par Michel Simon. Enfin, résolue pour lui.
Absolument.
Là où il y a des filles, ça va être les ennuis.
Bah pendant très très longtemps, pendant des décennies, les guides surtout ont résisté. La commissaire Marie-Thérèse Chaoutre considérait que pour l'émancipation des jeunes filles et des jeunes femmes, la fusion ou l'union avec les scouts était problématique.
Parce que les guides étaient féministes d'une certaine manière.
Ah, il y a un féminisme chrétien représenté par Chaoutre, oui, tout à fait. Et très militant même.
La mixité, la fusion vont finir par se faire en 2004, il y a 11 ans.
Oui, et au terme de négociations qui ont duré vraiment très très longtemps. Ça a été assez difficile. Mais je pense qu'on en est venu à cette idée que finalement la mixité ne représentait pas une sorte de mainmise d'une association sur l'autre. L'équilibre s'est fait assez naturellement, me semble-t-il, au terme de cette négociation.
Alors maintenant, par catégorie d'âge, il y a un an pour les garçons, un an pour les filles. Alors il faut que vous nous éclairiez, là, parce que c'est extrêmement compliqué les partages de classes d'âge dans l'histoire du scoutisme et surtout dans l'histoire du scoutisme contemporain. Louveteau et Jeannette, scout et guide.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que votre histoire de raiders, là? Vous étiez raider, vous?
Non, c'était avant.
Ah oui, alors qu'est-ce que c'est avant. Les raiders? C'est bien avant vous.
Bon, simplement, trois classes d'âge traditionnelles. Les jeunes, jusqu'à 12 ans. Ensuite, les éclaireurs, jusqu'à 16-17, l'âge 18, disons. Et ensuite, la route, chez les garçons. Donc, remise en cause par les scouts de France autour de 64. On divise la branche médiane, c'est-à-dire les 12, 16, 18, si vous voulez, en deux. Voilà. Les raiders dont vous parlez, c'est une proposition qui a permis, enfin, dont on espérait qu'elle permette au mouvement de connaître un nouvel essor, et ça essentiellement dans les années 50. Il s'agissait de, pour la branche moyenne, d'une proposition qui visait à former des super scouts, si vous voulez.
Mais l'idée d'un partage de la classe moyenne, c'est toujours maintenu chez les scouts. Et alors vous avez maintenant des pionniers. Alors vous étiez pionnier.
Ça. J'ai été pionnier,
c'est ça. Et pourquoi vous étiez en chemise rouge? Pourquoi sont-ils encore en chemise rouge? C'était un emprunt au vocabulaire communiste.
À l'époque, on a accusé le Bouteux, qui était l'un des responsables de cette réforme, d'être communiste, ou de s'inspirer des jeunesses communistes, totalement absurde. Il s'agissait de choisir une couleur qui était attractive dans un moment où la jeunesse connaissait une explosion des couleurs.
Dites-moi, la difficulté, elle vient aussi des aînés, qu'on appelait les routiers, qu'on appelle maintenant les compagnons, chez qui on cherche à puiser les futurs chefs.
Bien sûr.
La rotation dans un mouvement de jeunesse, c'est pas comme dans un parti politique où vous êtes responsable des jeunes d'un parti politique jusqu'à 30 ans ou 50 ans parfois. La rotation est extrême. Un chef, ça fait un an et demi en moyenne.
Ah oui, être chef dans un mouvement scout, c'est pas une carrière. C'est un problème récurrent. Dès le départ, la rotation des responsables volontaires a été un problème et leur formation l'était aussi, de ce fait.
Et c'est dans ces groupes d'aînés et de jeunes chefs que dans les années 60-70 vont se créer des tensions politico-religieuses. Certains d'entre eux, vous dites les plus purs, à moins que ce ne fussent les plus crédules, espéraient en une sorte de parousie. Il n'y avait plus besoin de garder l'institution.
Il y a eu
tout pouvait se diluer dans une fraternité universelle.
Un courant, oui. Un courant des scouts de France a été tenté par la disparition des insignes, des grades. Il faut dire que le mouvement était allé assez loin dans ce sens traditionnellement. Donc il y a eu une espèce de contrebalancier, si vous voulez. Et bon, c'est grâce à la résistance de certains qui ont compris que pédagogiquement un minimum de structure était nécessaire, que le mouvement a pu survivre dans les années 70.
Et puisque vous parlez de balancier, c'est dans cette espérance d'une fraternité illusoire que les scouts d'Europe, une dissidence, va s'inscrire, qui maintient, elle, le caractère le plus traditionnel possible au mouvement. Voici dans les Nuits magnétiques de France Culture en 1981, ce qu'étaient les positions à l'époque des scouts d'Europe.
Scouts toujours !
Ouais !
Un garçon confié à ta patrouille désire prononcer sa promesse. Amène-le-moi. Que désires-tu ?
Devenir scout d'Europe.
Pourquoi ?
Pour apprendre à mieux servir Dieu et mon prochain.
Quel avantage matériel en attends-tu ?
Aucun.
Quelle est la première obligation du scout ?
La bonne action quotidienne.
On dit des scouts d'Europe qu'ils sont conservateurs, on dit même qu'ils sont réactionnaires, c'est vrai ?
Conservateur, le duc d'Orléans, il disait que c'était un mot qui commençait mal. Les scouts d'Europe sont un mouvement d'éducation qui essaye à partir de proposer aux enfants et à leurs parents de vivre selon un certain style.
Les scouts de France auraient tendance à considérer que vous avez certains aspects paramilitaires.
Paramilitaires ? Non, en fait, nous avons un uniforme. Tout groupe se reconnaît par un certain nombre de signes extérieurs qui sont un uniforme, qui sont des chants, qui sont des cérémonies. Et pour ce qui concerne l'uniforme en particulier, il suffit de se promener dans des cités autour de nous. J'habite la banlieue pour s'apercevoir que les groupes de jeunes qui ne sont pas du tout scouts ont véritablement un uniforme entre eux.
Philippe de Coligny, contre la dilution, l'identification.
Absolument, oui. Le mouvement était parti de très loin, en 62, quand le pseudo-fondateur, parce qu'en fait il n'était pas, a pris le pouvoir, Péric Géraud-Kerraod, la position était franchement réactionnaire. Et puis, petit à petit, le mouvement s'est assagi.
Il a fini par être reconnu par l'Église de
absolument,
France,
tout à
par
fait,
le ministère
oui,
de la Jeunesse et des Sports.
Et on peut dire qu'il pratique un scoutisme aujourd'hui qui s'inspire beaucoup de la tradition, sans s'enfermer dans, disons, des formes trop closes. Cela étant, il faut souligner que cela change beaucoup d'une troupe à l'autre en fonction du chef. C'est pas très original, mais c'est peut-être plus marqué chez eux.
Le scoutisme d'Europe connaît lui aussi des dissidences. Il arrive même parfois que certains de ces groupes retrouvent les guides et les scouts de France. C'est une véritable diaspora. C'est extrêmement compliqué.
Précisément à cause de l'importance du chef, de la personnalité et des options du responsable d'une troupe ou d'une unité.
Une des personnalités les plus étonnantes, c'est Michel Menu, qui a quitté le scoutisme et qui a fini, lui, je cite son nom parce qu'il vient de disparaître, par créer les Goums.
Oui, tout à
fait. C'est quoi ça, les Goums ?
À des jeunes qui l'entraînaient derrière lui, marcher dans le désert.
8 jours de désert, de spiritualité.
Le fondateur des Red Air, dont nous parlions tout à l'heure.
Il y a beaucoup de recoupements maintenant. Le désert amène souvent à rencontrer le monde musulman. Il y a beaucoup de recoupements entre les musulmans et les catholiques chez les scouts.
Je pense qu'il y a eu un accompagnement de longue date. Quant à dire qu'il y a confusion, non, mais il y a vraiment une solidarité fondée sur une histoire ancienne.
Si je conseille à Stéphane Ronxin, notre réalisateur qui est de Saint-Denis, de s'intéresser aux scouts de France à Saint-Denis, ben il verra à la tête des responsables du groupe, un jésuite,
une future
et
vocation.
Un musulman à la fois. C'est l'occasion de faire le générique. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Martin Penet, avec à la technique Mathias Alléon. Et puis pour nous quitter, une sorte d'envoi.
Ce n'est qu'un au revoir, mes frères.